Quelques mots à propos de cette table ronde. On a donc commencé par créer des vidéos 3D consacrées à l'enseignement de l'anatomie, à l'enseignement de l'anatomie en STAPS, ce qui, dans une université scientifique, donc sciences dures telles que Lyon 1, ne s'impose pas obligatoirement aux yeux de tous nos principaux responsables. C'est du STAPS, donc c'est peut-être un petit peu du luxe. En tout cas, j'ai senti au départ du projet, quelques réticences. Donc il s'agissait pour moi de renforcer le projet, du moins tant que les financements de l'UV2S n'étaient pas assurés, puisque la première période bénéficiait d'un financement de la région Rhône-Alpes, mais qui n'était pas automatiquement reconductible. Donc ceci m'a conduit, sinon poussé, d'une part à évaluer l'impact de cet enseignement auprès des étudiants. On se doutait, enfin j'espérais certains types de réponses, Emmanuel vous en dira davantage. Et puis depuis 2 ans, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte qu'on n'interrogeait jamais les étudiants sur leurs attentes. Le jour où ils arrivent à l'université, finalement, ces anciens lycéens, après tout, il n'y a eu que les plages et le mois d'août qui sont passés par là, il n'y a pas finalement de différence entre un lycéen qui vient d'obtenir son bac et la première année d'étudiant en STAPS ou même en psychomote ou en ergo, même s'ils ont un an de formation entre-temps. Et puis, d'autre part, on me demandait d'évaluer l'impact au niveau de l'apprentissage. Bref, quels étaient les comportements des étudiants devant la 3D. Alors, c'est vrai que dans des temps immémoriaux, ma thèse était consacrée justement à la didactique de l'anatomie. J'avais quelques arrière-pensées et on a créé au sein du laboratoire du CRIS, Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport de Lyon 1, on a créé dans le dernier quadriennal un volet recherche qui s'appelle Neurosciences et enseignement de l'anatomie avec comme patron Christian Collet, qui est aujourd'hui PU, Émeric Guillot, qui est donc MCF, donc spécialiste de neurosciences, et dans des circonstances toujours relevant du hasard et de la chance, on a donc pu recruter comme doctorant Nadi Oyek, qui donc a consacré sa thèse, ou l'essentiel de sa thèse, à cette question. Il va donc vous en parler davantage. Et bon, j'ai quitté l'UFR STAPS il y a 2 ans. Et c'est désormais donc Nadi qui, en tant qu'ATER depuis 2 ans, enseigne l'anatomie à Lyon 1. Et puis j'ai oublié, du coup, je me tourne vers Emmanuel. Donc Emmanuel Sylvestre est le responsable des évaluations à Lyon 1. On a un service qui s'appelle ICAP, Innovation, Conception et Apprentissage pour la Pédagogie, qui regroupe donc toutes les entités nécessaires justement à l'appui à la pédagogie et également à l'évaluation et à la création de ressources et en même temps à l'évaluation de l'impact de ces ressources. Donc avec Manu, on s'est rendu compte qu'on avait là un terrain extrêmement intéressant et puis ne l'oublions pas aussi, surtout quand on bascule dans le secteur santé, un côté un peu provocateur, c'est que l'évaluation des enseignements a quand même du mal à percer, en particulier dans le secteur santé, tu nous en diras peut-être plus. Et c'est vrai que ces évaluations, en plus portant sur les nouvelles technologies, avaient un côté un petit peu provocateur, je reprends ce mot tout de même, parce que ça fait un petit peu partie du plaisir qu'on a eu à travailler ensemble. Donc, lequel des deux c'est Manu qui commence ?
Oui, donc bonjour. Au niveau de l'organisation de la table ronde, donc Nadi va vous présenter un petit peu la recherche qu'il a pu faire justement sur la performance des étudiants. Donc on distinguera 2 niveaux et puis après on verra aussi des informations sur les attentes, la perception des étudiants sur ces nouvelles technos qu'on a utilisées. Et on pourra discuter donc tous ensemble sur ces points et peut-être des choses qui fonctionnent moins bien quand on fait ce type d'évaluation. Donc juste pour cadrer un petit peu la discussion, on a utilisé le modèle d'évaluation de Kirkpatrick. Donc c'est un modèle qui date des années 70, c'est pas récent. C'est un modèle qui montre différents niveaux d'évaluation. Donc avec un premier niveau d'évaluation qui va être la réaction. Donc ça va être le ressenti des étudiants. Donc on va interroger les étudiants sur ce qu'ils ont vu en cours. Et nous, on a fait autre chose aussi, donc ce qu'ils attendent du cours. On a un deuxième niveau d'évaluation. Donc là, c'est quand vraiment on veut aller plus loin dans l'évaluation du dispositif de formation, du dispositif d'enseignement. C'est l'évaluation de l'apprentissage. Donc voir si le dispositif qu'on a mis en place a un effet sur l'apprentissage. Donc là, on est obligé de passer par des dispositifs pré-test, post-test, donc avec une période d'enseignement au milieu. Et on compare avec différents groupes. Un troisième niveau va être le comportement. Donc là, c'est plus une évaluation au niveau du transfert de connaissances, donc de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Donc tout ce qu'on leur a enseigné, est-ce qu'il va y avoir un impact après sur leur comportement? Et enfin, un dernier point que nous, on n'a pas évalué, et on pourra peut-être en discuter dans la table ronde, ça va être au niveau du résultat. En gros, c'est tous les bénéfices qu'apporte l'enseignement pour le futur professionnel. Donc, par exemple, à l'ISTR, Patrice forme des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Est-ce que, après avoir suivi cet enseignement d'anatomie en 3D, ces étudiants diplômés vont être plus performants que d'autres étudiants qui n'ont pas suivi cet enseignement-là? Donc ça, pour l'instant, on l'a pas étudié. Donc là, on voit qu'on a différents travaux. Le comportement, Nadi a travaillé ça dans sa thèse. Au niveau de l'apprentissage, c'est un travail qu'on a mené entre ICAP, le CRIS et l'UFR STAPS, qu'on va peut-être mettre en place aussi à l'ISTR. Et au niveau des réactions, c'est des enquêtes qu'on a fait avec ICAP, dans l'UFR STAPS et l'ISTR. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Nadi qui va vous présenter les deux points, donc l'évaluation au niveau des comportements et des apprentissages.
Bonjour. Donc, cinq ans de recherche expérimentale, donc on a fait trois études principales pour essayer de valider expérimentalement l'utilisation de nos ressources pédagogiques. Premièrement, une petite introduction. Plusieurs références bibliographiques ont déjà mis en évidence que l'anatomie nécessite de bonnes capacités visuospatiales. Et notamment, ici, on entend des capacités de rotation mentale, d'imagerie mentale. Et sans trop rentrer dans le détail de la bibliographie, il y a un sujet très important que je ne vais pas aborder en détail aujourd'hui, mais qu'on pourrait revoir dans le débat, c'est les différences de genre. Donc on a constaté une différence de genre dans les capacités visio-spatiales, notamment en faveur des hommes, et cela a eu répercussion sur les résultats en anatomie. Alors ces capacités visio-spatiales ont été évaluées à l'aide de plusieurs tests. On a utilisé principalement deux tests. Le premier s'appelle le test de Vandenberg & Cuse Mental Rotation Test. Et le deuxième, c'est un test qu'on appelle Group Embedded Figure Test. Alors, je vous donne un exemple des items. Le GEFT, à gauche, c'est un test qui évalue ce qu'on appelle la dépendance ou l'indépendance à l'égard du champ visuel. On demande aux étudiants de repérer ou de retrouver la figure qui se trouve à gauche, qui est une figure simple, et de la retrouver encastrée à l'intérieur de la figure plus complexe à droite. Donc là, il faut avoir la capacité d'être indépendant du champ visuel pour retrouver la réponse. Concernant le test de rotation mentale, on propose ces figures géométriques. Donc à gauche, on a la figure source, à droite, quatre items. Il faut retrouver deux de ces quatre items qui correspondent exactement à l'item qui est à gauche. Pour trouver la réponse, il faut passer par chaque item, essayer de faire ce qu'on appelle la rotation mentale, donc tourner l'item dans l'espace pour essayer de le mettre en superposé avec l'item à gauche pour avoir la bonne réponse. Donc il faut passer par chacun de ces items et la réponse ici c'est la première et la quatrième figure. Donc c'est principalement ces deux tests qu'on a utilisés. Alors une première étude qui a été publiée dans Advances in Health Science Education en 2007 Cette étude a été menée avec 184 étudiants à l'UFR STAPS de Lyon, en première année, inscrits au module d'anatomie. Dans une première phase, donc au début du semestre, on a évalué leur capacité visio-spatiale. Durant une deuxième phase, donc ils ont suivi l'enseignement de l'anatomie. Et durant la troisième phase, ils ont fait leur examen terminal en anatomie, qui était un QCM de 220 questions. On a mis en évidence une corrélation positive entre le score au QCM d'anatomie et le score aux deux tests de capacité visio-spatiale. Dans d'autres termes, les personnes qui avaient une performance élevée dans les tests de capacité visio-spatiale étaient également performantes dans le score final en anatomie. On peut constater que les capacités visio-spatiales favorisent l'acquisition des connaissances en anatomie et que surtout, il fallait intégrer une éducation au repérage spatial et à la rotation mentale au début de chaque semestre d'enseignement de l'anatomie. Donc ça, c'était ce deuxième point à la fin de la discussion, était notre deuxième étude. Donc cette deuxième étude, qui est plutôt, selon les quatre niveaux de Kirkpatrick, dans la partie comportement, donc on a évalué un peu le transfert d'apprentissage et le transfert de connaissances. Cette étude a été publiée dans Teaching and Learning in Medicine en 2009. On a eu 48 étudiants, donc répartis en trois groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de rotation mentale. C'est des étudiants en STAPS, inscrits au module d'anatomie et ayant suivi 12 séances d'entraînement à la rotation mentale durant un mois, en raison de 3 séances par semaine. Un deuxième groupe, c'est le groupe anatomie. C'est 16 étudiants en STAPS, inscrits au même module d'anatomie, mais ayant suivi 12 séances d'activité physique neutre. Alors, l'activité physique neutre, c'était principalement de la musculation. Et ce qu'on voulait dire par neutre, c'est des activités qui ne requièrent aucune capacité visio-spatiale. Donc, c'était pas de la gymnastique ou autre activité qui déjà favorise un développement des capacités visio-spatiales. Un troisième groupe, contrôle, c'est un groupe formé de 16 étudiants de différents cursus, donc qui n'ont jamais appris l'anatomie et qui également ont participé à 12 séances d'activité physique neutre. Dans un premier temps, tous les participants ont passé le VMRT. Tous les groupes, c'était le pré-test. Ensuite, on a eu la période d'entraînement, donc de la rotation mentale, mais spécifique. Quand je dis de là, vous allez voir un exemple des exercices qu'on a utilisés. On les entraînait pas au test du VMRT. Sinon, on serait pas dans du transfert. On les entraînait dans des exercices complètement différents pour essayer de trouver un certain transfert dans le VMRT. Et bien sûr, les deux groupes, anatomie et le groupe contrôle, ont participé à des activités physiques neutres. Ensuite, il y a eu le post-test, donc une deuxième passation du VMRT pour tous les groupes. Et en fin de semestre, il y avait l'examen final d'anatomie, uniquement, bien sûr, pour les deux groupes formés des étudiants inscrits au module d'anatomie. 239 questions, on avait deux types de questions. Les questions d'ordre général, donc c'est des questions d'insertion musculaire par exemple, c'est des questions vraiment déclaratives. Et d'autres questions nécessitant une capacité visio-spatiale avant de répondre. Je vais vous montrer quelques exemples, bien évidemment. Les exercices d'entraînement à la rotation mentale, ça c'est un exemple. Donc comme vous voyez, c'est des stimuli qui n'ont rien à voir avec les formes et les cubes du Vandenberg-Eccles test. Donc on demande aux participants de dessiner cette forme après l'avoir tournée de 180 degrés à droite. Donc là, ils avaient un petit carnet sur lequel ils dessinaient la forme. Voilà la réponse. Sinon, un autre exercice que je trouve très intéressant, même principe, dessiner ce mug après l'avoir tourné de 180 degrés à gauche selon l'axe Y. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que on représente un mug selon les trois plans de l'espace. Et c'est ces mêmes trois plans de l'espace qu'on a dans le corps humain, alors qu'on les appelle différemment, le plan sagittal, frontal, horizontal. Là, on les appelle X, Y, Z. Et dans ce genre d'exercice, indirectement, on vise un certain transfert. Et voilà la réponse. D'autres types d'exercices, comme par exemple, est-ce que ce tournevis est en train de visser ou bien de dévisser, ou bien est-ce que c'est une main droite ou une main gauche? Donc là, on est en train de solliciter plusieurs capacités visio-spatiales, mais aucune de ces capacités visio-spatiales est en lien direct avec le test qu'on utilise, ni avec l'anatomie directement. Pour cela, on est dans un transfert éventuel à la fin de l'étude. Un exemple des questions d'anatomie nécessitant une rotation mentale. On montre, par exemple, ce schéma, ce croquis-là, et la question, c'est est-ce que la figure en haut à gauche et celle d'en bas, pardon, à droite, je parle, des deux figures à droite, est-ce qu'elle représente une vue antérieure ou latérale du pied, une vue postérieure ou latérale, postérieure ou médiale? Alors, c'est une question d'anatomie, mais à la fois une question qui demande la représentation spatiale. Pour répondre, il faut avoir deux genres de connaissances. Premièrement, déclarative, ça veut dire il faut reconnaître quand même l'arche médiale du pied, il faut reconnaître le calcaneum. Mais également, il faut avoir la capacité de tourner autour de ce pied ou bien de tourner le pied par rapport à soi pour répondre à ce genre de questions. Les résultats. Premièrement, concernant les scores au VMRT. Donc en rouge, on a le groupe qui s'est entraîné à la rotation mentale. En jaune, le groupe d'anatomie ayant suivi de l'activité neutre. Et en bleu, l'autre groupe contrôle. On constate que les trois groupes au pré-test au VMRT avaient un résultat similaire. Les trois groupes ont progressé, bien sûr, parce que ça, on l'a déjà trouvé dans la bibliographie. Du moment où on fait une deuxième passation du test, il y a forcément une amélioration, mais on constate, dans le graphe rouge, que l'amélioration est nettement supérieure pour le groupe ayant suivi la rotation mentale, l'entraînement à la rotation mentale. Concernant le score en anatomie, en rouge, on a le groupe rotation mentale et en jaune, on a le groupe anatomie mais activité physique neutre. Donc, dans l'ensemble des questions générales, on n'a pas trouvé une différence. Par contre, dans les questions spécifiques, on a une meilleure performance, donc à droite, l'histogramme à droite, une meilleure performance du groupe ayant suivi l'entraînement, la rotation mentale. Discussion. Premièrement, on peut constater un transfert en direction du VMRT, donc l'entraînement spécifique à la rotation mentale a pu avoir une amélioration au post-test, et on peut également supposer un autre transfert en direction de l'anatomie. De retour aux quatre niveaux d'évaluation, une dernière étude qui n'a pas encore fait l'objet d'une publication scientifique était autour de l'apprentissage et du comportement des étudiants. Dans cette étude, donc 155 étudiants ont participé, également inscrits en L1 à l'UFR STAPS de Lyon, étaient répartis en trois groupes. On a un groupe 2D, un groupe vidéo 3D et un groupe PDF interactif. Tous les étudiants avaient le même support écrit et durant un seul TD étaient censés apprendre un auto-apprentissage, il faut bien noter, le fémur. Donc ils avaient un support écrit. Mais avec ce support écrit, il y avait trois supports visuels différents. Le premier groupe disposait de croquis 2D, du fameux Brison et Castaing. Le groupe vidéo 3D utilisait nos ressources vidéo, donc la vidéo qu'on a conçue dans le service ICAP sur le fémur. Et le groupe PDF interactif, c'était le PDF du fémur. Donc, le même support écrit pour tous. Aucune intervention du professeur, c'était de l'auto-apprentissage. La même évaluation pré-test et post-test pour tous les trois groupes, mais le support visuel était différent. Déroulement du TD. Au début, ils ont complété le VMRT plus un questionnaire d'anatomie générale et un autre questionnaire sur la série du bac, par exemple, est-ce qu'ils ont déjà fait une ou deux années de STAPS ailleurs ou de médecine pour avoir un peu le background qu'ils avaient. Ensuite, il y avait 45 minutes d'auto-apprentissage du texte sur le fémur, suivi du post-test. Donc, c'était un QCM en anatomie sur le fémur, qui durait 15 minutes. Résultat, les trois groupes étaient homogènes au départ. Donc, quand je dis homogène au départ, c'était à la fois au VMRT et au questionnaire d'anatomie générale. On a eu uniquement une tendance statistique en faveur des groupes PDF et vidéo. Alors qu'on, bien sûr, qu'on espérait une tendance plutôt à la place d'une tendance, un résultat beaucoup plus significatif. Mais nos explications, c'est les suivantes. On estime que 45 minutes d'auto-apprentissage n'était pas suffisant. Et il fallait faire cette même chose, ce même genre de protocole, mais tout au long d'un semestre. On estime également qu'il y avait une fatigue parce que c'était un auto-apprentissage, c'est des L1 STAPS, ils arrivent le premier TD de l'année et on leur donne un cours sur le fémur qu'ils devaient étudier seuls. Ils sont pas encore autonomes, donc c'était également un des facteurs de ces résultats. Et finalement, le manque d'investissement. Pourquoi un manque d'investissement? Parce que on leur a dit que tout ce qu'on fait, c'est pour la recherche. On pouvait pas mentir, on pouvait pas leur dire que ce serait noté. D'ailleurs, c'était toujours la première question qu'on nous posait. Est-ce que c'est noté? Est-ce que ça fait partie du contrôle continu? On ne pouvait pas dire ça. Alors que les deux premières études que je vous avais déjà présentées, tous les examens d'anatomie qu'on passait, c'était l'examen officiel. Donc, ils étaient obligés de bien répondre.
Merci. Donc, là, je vais vous présenter maintenant les travaux donc, sur le niveau réaction du modèle de Kirkpatrick, donc sur le ressenti des étudiants. En sachant qu'on a travaillé sur deux points. Un premier point, ça va être l'attente des étudiants. Donc, lors du premier cours, donc avant de savoir à quelle sauce ils vont être mangés par l'enseignant, on leur fait passer une enquête qui va leur demander finalement ce qu'ils souhaiteraient avoir comme support de cours pour cet enseignement, en leur proposant différentes sortes, par exemple des croquis couleurs, des croquis noirs et blancs, des transparents couleurs, des transparents noirs et blancs, squelettes, vidéo 3D. D'autres informations aussi sur leur cursus. Cette étude, donc on a fait trois années d'études, on a interrogé 346 étudiants en tout. Population, c'était des L1 STAPS, première année ergothérapie ou première année psychomotricité. À la fin de l'enseignement, on a évalué le ressenti de ces étudiants par rapport à tout ce qu'ils avaient pu voir lors de ces cours. Donc là, c'est des études qu'on a menées plus récemment. Donc on a 135 étudiants, on va en avoir 200 en janvier à interroger sur ces mêmes questionnaires. Donc la population plus paramédicale avec des ergothérapeutes et psychomotriciens. Et donc là, la passation, c'était lors du dernier cours. On leur reposait des questions sur les supports de cours, quel était le meilleur support de cours finalement qu'ils avaient pu avoir, qu'ils avaient pu utiliser. Donc au niveau des attentes, donc on est bien dans les attentes, donc c'est lors du premier cours, les supports de cours qui souhaiteraient avoir et qui, pour eux, permettraient de mieux comprendre l'anatomie. En première position arrivent les vidéos 3D. Donc on a 94% d'avis favorables sur ces supports. Donc ce qu'on voit ici, c'est en gros tout ce qui est vert foncé, c'est des avis très favorables. Vert clair, c'est plutôt des avis favorables. Orange, avis plutôt défavorable. Et rouge, avis très défavorable. Donc là, on a quand même une bonne proportion de vert foncé, ce qui montre que c'est un support qui les intéresserait, en sachant qu'eux, ils n'ont aucune connaissance au départ de l'existence de ces supports. Deuxième point, ce qui arrive en deuxième position, c'est le squelette, donc Oscar, avec 91% de souhait d'utiliser ce type de matériel, avec une proportion d'avis très favorable qui est assez importante aussi. Troisième position, on a les croquis couleurs, donc papier, 91% aussi, mais avec des avis très favorables qui sont un peu moindres. Donc là, finalement, déjà, on part avec un terrain où des étudiants s'attendent à ce que l'enseignant utilise la 3D dans son enseignement. D'ailleurs, on avait posé une question là-dessus aussi. Et dans les premiers points qui arrivent, c'est un enseignant d'anatomie doit utiliser la 3D pour son enseignement. Au niveau du ressenti, maintenant, à la fin du cours, de l'enseignement de tout le semestre, on a 98% des étudiants qui estiment que la 3D est effectivement le meilleur support de cours pour apprendre l'anatomie, avec une proportion de vert foncé qui a quand même beaucoup progressé par rapport au premier schéma. Donc là, on a toute cette partie d'avis très favorable. Le classement reste le même. En deuxième position, on a le squelette qui arrive avec 90% d'avis très favorables. Et les croquis couleurs qui arrivent seulement avec en troisième position, mais avec 85% d'avis favorables, avec une proportion d'avis très favorables qui sont beaucoup moindres. Donc là, on était sur les supports de cours. On a aussi posé des questions sur les attentes et le ressenti des étudiants sur l'utilisation des vidéos 3D, avec deux points pour s'orienter dans l'espace. Est-ce que finalement, les vidéos 3D, donc là on est un peu sur du transfert, les aident à s'orienter dans l'espace. Et est-ce que ça les aiderait ou est-ce que ça les a aidés à s'imaginer ce que décrivait l'enseignant pendant son cours? Donc on voit que, en attente, ils estiment que les vidéos 3D pourraient les aider à s'orienter dans l'espace et à s'imaginer ce que décrirait l'enseignant pendant le cours. Donc à 92% d'avis plutôt favorables. Au niveau du ressenti, donc après l'enseignement, on a 98% des étudiants qui estiment que les vidéos 3D les aideraient effectivement à s'orienter dans l'espace, et 98% des étudiants qui ont dit que les vidéos 3D avaient aidé les étudiants à s'imaginer ce qu'avait décrit l'enseignant pendant son cours. Donc là, finalement, les différents résultats qu'on montre au niveau du ressenti des étudiants, quand même plutôt positif, montrent l'intérêt des étudiants par rapport à ces technos. Donc, et après, donc on a fait ces études. Au niveau de l'évaluation des apprentissages, Nadie, vous avez présenté tout à l'heure l'étude qu'on a faite sur une population qui était pas très nombreuse. On avait 135 étudiants. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est refaire cette étude, mais sur un semestre complet. Alors là, on a des différents problèmes qui arrivent, notamment un problème éthique. Si on leur fait passer si on crée différents groupes expérimentaux avec des supports différents, par exemple un groupe qui utilise la 2D, un autre groupe qui utilise la 3D, et qu'on montre à la fin que la 3D permet de mieux apprendre l'anatomie, on se retrouve avec un groupe qui est lésé. Donc là, c'est un peu difficile à mettre en place. Donc il faut qu'on trouve, il y a des solutions pour faire ça, on pourra en discuter. Autre solution aussi, c'est de refaire le protocole, mais avec d'autres enseignants, donc sur plusieurs cours, et ou sur utiliser d'autres parties du corps, peut-être plus simples à comprendre. Les ressources, on ne les avait pas encore pour faire ce type d'études. On peut envisager d'autres études aussi, donc l'effet des podcasts, ça on l'a pas utilisé encore, donc c'est assez récent aussi l'utilisation des podcasts, mais est-ce que ça va avoir un impact sur l'apprentissage des étudiants? L'effet des lunettes 3D, donc on souhaiterait aussi que pendant les TD, les étudiants puissent utiliser des lunettes 3D pour travailler. Est-ce qu'on va avoir un impact différent aussi lorsqu'on utilise ces techniques? Et autre chose aussi dont je vous parlais au début, on n'a pas évalué au niveau de la pyramide que je vous ai présentée de Kirkpatrick, on n'a pas évalué le résultat, c'est-à-dire l'impact de l'enseignement, du dispositif sur la professionnalisation de nos étudiants. Donc voir si on pourrait faire ce type d'études. Et on peut avoir bien d'autres types d'études, et je pense qu'on va en discuter maintenant dans le débat.
Le risque de voir les amphis désertés, si les ressources sont en ligne, est d'autant plus grand que, généralement, les étudiants, surtout dans le secteur santé, quoi qu'en STAPS, non, c'était le même cas, demandent que le cours écrit soit en ligne avant le cours magistral. Et à ma grande surprise, à mon grand soulagement, pour l'instant, les étudiants de santé, du secteur paramédical, ne désertent pas mes amphis. Alors, cela dit, il faut quand même considérer que lorsque vous enseignez en 3D, quasi exclusivement en 3D, le rôle de l'enseignant est totalement différent. Avant, et en particulier en STAPS, je parlais hier d'un cas réel qui a été le mien pendant 10 ans à Lyon, j'avais cours au départ le samedi, ensuite le vendredi de 14h à 16h. C'est d'ailleurs vous dire à quel point le statut de l'anatomie dans certaines UFR STAPS est au plus haut. Et vous avez là devant vous des étudiants qui sont fatigués. En fin de semestre, ils sont fatigués, et plus on avance dans le semestre, ils sont fatigués. Eh bien, pour tenir en haleine vos étudiants, ça devenait un one-man show. Il fallait vraiment, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mon numéro était au point, j'avais tout, j'avais mes blagues préférées, je savais ce qu'il fallait faire avec les abdominaux pour les motiver, quand c'était à chaque chapitre, j'avais mon numéro qui était au point. Donc en gros, j'avais des amphis qui n'étaient pas désertés. Mais lorsque vous arrivez avec votre vidéo 3D, c'est plus l'enseignant qui est la vedette. Il y a de la couleur, ça bouge, et c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, j'en ai eu confirmation en lisant, en découvrant l'enquête de Mérieux chez les lycéens. Mérieux, Philippe Mérieux, donc, a fait une enquête portant sur 1 200 000 jeunes lycéens, une enquête qui portait sur l'ennui en cours. Que demande en 1 1 200 000 lycéens. Un prof passionné. Passionné, c'est le terme. Bon, c'est pas surprenant. En numéro 2, l'utilisation par le prof des nouvelles technologies. Donc ça veut dire qu'on a devant nous, et les enquêtes menées avec Manu le confirment. Ils ne vous connaissent pas. Quand on a réalisé ces enquêtes, bonjour, je m'appelle Thierry, c'est moi qui vais vous enseigner l'anatomie, mais avant, Lyon 1 va vous faire faire une enquête sur vos attentes. Donc ils ne savent pas qu'ils ont, ils vont avoir un enseignement en 3D.
Ils ne savent pas ce que c'est l'anatomie.
Si. En paramédical, si. Ils savent ce que c'est. Ça, parce que j'ai quand même...
En STAPS, non.
Et ils vous répondent, Manu, tu as peut-être oublié de le dire, 100% dans le secteur paramédical. Et en psychomotricité, j'ai 90% de filles. 100% donc des filles et des quelques garçons isolés, mais bien heureux de la promo, répondent. On attend de l'enseignant qu'il utilise la méthodologie 3D. Donc, sans vous connaître. Donc, si vous arrivez au premier cours... Donc une fois que Manu a franchi la porte, qui s'en va et commence le premier cours, si vous utilisez la 3D, vous avez des gens et vous répondez à leurs attentes. Par conséquent, vous passez au deuxième plan, vous n'existez plus. Ça bouge, il y a de la couleur, c'est sur des grands écrans, de bonne qualité, donc où les images ressortent, tout fonctionne bien. C'est fini, vous êtes en deuxième rideau, vous êtes en numéro 2, vous commentez, je disais hier que j'étais le Jean-Michel Larquet de l'anatomie, mais c'est un peu le cas. Et l'adhésion des étudiants est immédiate et vous en demande. Donc, je reviens à mon propos, le rôle de l'enseignant est à revoir totalement. Par conséquent, si cette vidéo qui les attire tant, c'est vrai, c'est un peu comme... tout de suite, comme des mouches sur de la lumière... Dans ce cas-là, ils n'ont plus besoin de l'enseignant si vous avez une bonne ressource à mettre en ligne. Et votre seule bouée de sauvetage, c'est d'amener de la valeur ajoutée pendant le cours. Alors, le jour où on aura des podcasts qui seront de bonne qualité, parce que ça fait partie de notre projet, le service vient d'accepter le principe de podcasts qui seront peut-être avec une visée un peu plus traumato, mais traumato-STAPS. Eh bien, on peut se demander s'il n'y aura pas pour l'enseignant un nouveau challenge. Alors toi, Nadie qui utilise également ces vidéos donc avec des étudiants STAPS, est-ce que tu ressens la même chose ?
Alors je ressens exactement la même chose et je vais compléter ce que tu as dit, Patrice. J'aborde le tronc et le membre inférieur au début du semestre. On a toutes les ressources pédagogiques et les vidéos. Alors là, une promotion de 250, ils sont quasiment 90% le mardi matin à 8h présents dans l'amphi. Mais à la fin du semestre, je commence le membre supérieur, on n'a pas encore toutes les vidéos. Je fais mon PowerPoint classique, les étudiants sont pas là. Donc ils sont présents pour les vidéos. Et l'idée que tu avais dit qu'on passe au deuxième plan, je suis d'accord, mais personnellement, j'ai eu une autre expérience. Je lance la vidéo... Et ça me permet de la commenter, mais de remonter les marches de l'amphi, d'être plus proche des étudiants. Je reste pas derrière le pupitre. Et ça fait une interaction avec les étudiants beaucoup plus intéressante.
Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on avait testé la gestion, justement, des PDF et des vidéos avec la Wii. Hier, peut-être, avez-vous regardé un extrait de quelques séquences qui étaient passées à la télévision. C'est sûr que pour attirer les médias, il n'y a rien de tel que ce genre d'expérience. Et c'est vrai que les réactions des étudiants qu'on n'a pas évoquées hier sont même très enthousiastes. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu bling bling, pédagogie un peu new look dans le vent, quoi. Mais je le répète, on est en face d'une discipline, l'anatomie, qui n'a pas bonne presse dans les amphithéâtres. Et en médecine, c'est quasiment encore pire. Elle est reléguée, en particulier à Lyon 1, au dernier rang quasiment des disciplines. Alors le patron du labo m'avait expliqué pour quelles raisons, à quelles difficultés ils étaient confrontés. Et l'anat passe quand même pour une discipline austère, sélective, ennuyeuse. hormis les cas exceptionnels d'enseignants capables d'écrire à la craie des deux mains pour certains, dont tout le monde garde le souvenir quand on a subi tels enseignements ou suivi tels enseignements. En revanche, lorsque vous enseignez le volet, je suppose que c'est une activité physique, c'est sans doute différent, mais en ANAT, peut-être en physio, je pense en bioméca, ça doit être la même chose, en droit peut-être aussi, on est quand même, on enseigne des disciplines qui ont mauvaise presse. Et là encore, on a un comportement à trouver, un juste milieu à trouver. Et c'est vrai que la 3D là, nous aide quand même à nous attirer un petit peu plus les étudiants vers ces disciplines. Et je pense que pour les STAP, ça peut être important, cette reconnaissance des disciplines fondamentales.